acte cinquième. Scène 1. Athènes. Appartement dans le palais de Thésée. Thésée, Hippolyte, Philostrate, seigneur, suite. Hippolyte. Cela est étrange, mon cher Thésée, ce que racontent ses amants. Thésée. Plus étrange que vrai. Jamais je ne pourrai ajouter foi à ces vieilles fables, ni à ces jeux de féerie. Les amants et les fous ont des cerveaux bouillants, une imagination féconde en fantômes, et qui conçoit au-delà de ce que la froide raison peut jamais comprendre. Le fou, l'amoureux et le poète sont toute imagination. L'un voit plus de démons que l'enfer ne peut en contenir. C'est le fou. L'amoureux, non moins extravagant, voit la beauté d'Hélène sur un front égyptien. L'œil du poète, roulant dans un beau délire, lance son regard du ciel à la terre et de la terre aux cieux. Et comme l'imagination donne un corps aux objets inconnus, la plume du poète leur imprime de même des formes et assigne à un fantôme aérien une demeure et un nom particulier. Tels sont les jeux d'une imagination puissante. Si elle conçoit un sentiment de joie, elle crée aussitôt un être messager de cette joie. Ou si, dans la nuit, elle se forge quelque terreur, avec quelle facilité un buisson devient un ours. Hippolyte. Mais toute l'histoire qu'ils ont racontée de ce qui s'est passé cette nuit, leurs idées ainsi transformées, tout cela annonce plus que les illusions de l'imagination et présente quelque chose de réel, mais de toute façon d'admirable et d'étrange. Entre Lysandre, Démétrius, Hermia et Hélène. Thésée. Voici nos amants qui viennent pleins de joie et d'allégresse. Que le bonheur et de longs jours d'amour accompagnent vos cœurs, aimables amis. Lysandre. Que des jours plus beaux encore suivent les pas de votre Altesse et éclairent votre table et votre couche. Thésée. Allons, quelle mascarade, quelle danse aurons-nous pour consumer sans ennui ce siècle de 3 heures qui doit s'écouler entre le souper et l'heure du lit? Où est l'ordonnateur habituel de nos fêtes? Quels divertissements sont préparés? N'y a-t-il point de comédie pour soulager les angoisses de cette heure éternelle? Appelez Philostrate. Philostrate. Me voici, puissant Thésée. Thésée. Dites, quel passe-temps avez-vous pour cette soirée? Quelle mascarade? Quelle musique? Comment tromperons-nous l'ennui du temps paresseux si nous n'avons pas quelque plaisir pour nous distraire? Philostrate. Voilà la liste des divertissements qui sont préparés. Choisissez celui que votre Altesse préfère voir le premier. Il lui remet un écrit. Thésée lit. Le combat des centaures pour être chanté par un eunuque athénien sur la harpe. Nous ne voulons pas de cela. J'en ai fait tout le récit à ma bien-aimée, à la gloire de mon parent Hercule. La fureur des bacchantes enivrées et déchirant le chantre de la thrace dans leur rage, c'est un vieux sujet, et je l'ai vu jouer la dernière fois que je revins vainqueur de Thèbes. Les 9 muses, pleurant la peur de la science, récemment décédée dans l'indigence, c'est quelques critiques, quelques satires mordantes, et cela ne va pas à une fête de noces. Une ennuyeuse et courte scène du jeune Pyram avec sa maîtresse Thisbé, farce vraiment tragique. Tragique et comique à la fois? Courte et ennuyeuse? C'est comme qui dirait de la glace chaude et de la neige d'une espèce aussi rare. Comment accorder ces contraires? Philostrate. C'est, mon prince, une pièce longue de quelques dizaines de mots, ce qui est aussi court qu'aucune pièce de ma connaissance. Mais avec ces 10 mots, mon prince, elle est encore trop longue, ce qui la rend ennuyeuse, car dans toute la pièce, il n'y a pas un mot à sa place, ni un seul acteur propre à son rôle. Et c'est une pièce tragique, mon prince, car Pyram se tue lui-même à la fin. Ce qui, je vous l'avoue, quand je l'ai vu répéter, a rendu mes yeux humides. Mais de larmes plus gaies que n'en ont jamais fait jaillir les plus bruyants éclats de rire. Thésée. Quels sont les acteurs ? Philostrate. Des artisans aux mains calleuses qui travaillent ici dans Athènes, mais qui n'ont jamais travaillé d'esprit jusqu'à ce moment. Ils se sont avisés aujourd'hui de charger de cette pièce leur mémoire inexercée pour la cérémonie de vos noces. Thésée. Nous voulons la voir jouer. » Philostrate. « Non, mon noble duc, elle n'est pas digne de vous. Je l'ai entendue d'un bout à l'autre, et cela ne vaut rien, rien au monde. À moins que vous ne trouviez quelque amusement dans leur intention, en les voyant se tourmenter et réciter avec tant de peine pour plaire à votre Altesse. »
Thésée. « Je veux entendre cette pièce. Tout ce qui est offert par la simplicité et le zèle est toujours bien. Allez, faites-les venir. Et vous, mesdames, prenez vos places. »
Philostrate sort.
Hippolyte.
« Je n'ai pas de plaisir à voir des malheureux échouer, et le zèle succomber dans ses efforts pour plaire. »
Thésée.
« Eh, ma chère, vous ne verrez pas cela non plus. »
Hippolyte.
« Il dit qu'ils ne peuvent rien faire de supportable en ce genre. »
Thésée.
« Nous n'en paraîtrons que plus généreux en les remerciant, sans qu'ils nous aient rien donné. Notre plaisir sera de comprendre ce qui fait le sujet de leurs erreurs. Là où la bonne volonté échoue, un noble cœur considère l'intention, non le mérite de l'action. Dans mes voyages, souvent de grands clercs formaient le projet de me complimenter par des harangues longtemps étudiées. Et lorsque je les voyais frissonner et pâlir, rester courts au milieu de leur période, étouffés dans leur peur, leurs voix exercées, et pour conclusion rester muet et sans harangue, croyez-moi, ma chère, je cueillais un compliment dans le silence, et j'en lisais autant dans la modestie de leurs ailes timides que dans la bruyante voix d'une éloquence audacieuse et arrogante. L'affection et la simplicité muette m'en disent donc beaucoup plus que tout ce que je pourrais entendre.
Philostrate revient.
Philostrate. S'il plaît à votre Altesse, le prologue est tout prêt.
Thésée.
Qu'il s'avance.
On joue une fanfare.
Le prologue entre.
Le prologue.
Si nous déplaisons, c'est avec notre bonne volonté. Il faut que vous pensiez que nous ne venons pas pour offenser, mais pour notre bonne volonté. Vous montrez notre simple savoir-faire, voilà le véritable commencement de notre fin. Considérez donc que nous ne venons qu'avec dépit. Nous ne venons point comme pour vous contenter, mais c'est notre véritable intention. Nous ne sommes pas ici pour votre plaisir, que si vous avez regret, les acteurs sont tous prêts, et par leur jeu vous saurez tout ce qu'il y a apparence que vous sachiez.
Thésée.
Ce garçon ne s'arrête pas sur les points.
Lysandre.
Il a galopé son prologue comme un jeune cheval. Il ne connaît point d'arrêt. Voilà une bonne leçon, mon prince. Il ne suffit pas de parler. Il faut parler sensément.
Hippolyte.
En vérité, il a joué son prologue comme un enfant sur une flûte. Des sons, mais sans mesure.
Thésée.
Son discours ressemblait à une chaîne embrouillée. Il n'y avait aucun anneau de moins, mais tous étaient en désordre.
Que vient-il après lui?
Entre Pyram, Thisbé, la muraille, le clair de lune et le lion, comme dans une pantomime.
Le prologue.
Seigneur, peut-être êtes-vous étonné de ce spectacle. Mais étonnez-vous jusqu'à ce que la vérité vienne tout éclaircir. Ce personnage, c'est Pyram, si vous voulez le savoir. Cette belle dame, c'est bien certainement Thisbé. Cet homme enduit de chaux et de crépi représente une muraille, cette odieuse muraille qui séparait ces deux amants. Et les pauvres enfants, il faut qu'ils se contentent de murmurer tout bas au travers d'une fente de la muraille, que personne ne s'en étonne. Cet autre, avec sa lanterne, un chien et un buisson d'épines, représente le clair de lune. Car, si vous voulez le savoir, ces deux amants ne se firent pas scrupule de se donner rendez-vous au clair de lune, à la tombe de Ninus, pour s'y faire la cour. Cette terrible bête, qui de son nom s'appelle un lion, fit reculer, ou plutôt épouvanta la fidèle Thisbé venant dans l'ombre de la nuit. Et en fuyant, elle laissa tomber son manteau que l'infâme lion teignit de sa gueule ensanglantée. Aussitôt arrive Pyram, ce beau et grand jeune homme, et il trouve le manteau sanglant de sa fidèle Thisbé. À cette vue, avec son épée, sa coupable et sanguinaire épée, il perce bravement son sein bouillant. Et Thisbé, qui s'était arrêté sous l'ombrage d'un mûrier, retira son poignard et mourut. Quant au reste, que le lion, le clair de lune, la muraille et les deux amants l'expliquent dans leur grand discours tant qu'ils seront en scène.
Sortent le prologue, Thisbé, le lion et le clair de lune.
Thésée.
Je me demande si le lion doit parler.
Démétrius.
Il n'a rien d'étonnant à cela, mon prince. Un lion peut parler si tant d'ânes le peuvent.
À la muraille.
Dans le même intermède, il se trouve que moi, qui de mon nom m'appelle Snout, je représente une muraille, et une muraille qui, veuillez m'en croire, a un trou ou une crevasse, par laquelle les deux amants Pyramétis B murmuraient souvent en secret. Cette chose, ce crépi et cette pierre vous montrent que je suis précisément cette muraille. Voilà la vérité. Et voici à droite et à gauche l'ouverture, la lézarde par laquelle ces timides amants doivent se parler tout bas. Thésée. Peut-on demander à la chaux et à la bourre de mieux parler ? Démétrius. C'est mon prince, le mur le plus spirituel que j'ai jamais entendu. Thésée. Voilà Pyram qui s'approche de la muraille. Silence. Pyram. Ô nuit au lugubre visage, ô sombre nuit, ô nuit qui est toujours quand le jour n'est plus. Ô nuit, hélas, hélas, je crains bien que ma Thisbé n'ait oublié sa promesse. Et toi, ô muraille, ô douce et aimable muraille, qui est élevée entre le terrain de son père et le mien, toi, muraille, ô muraille, ô muraille, ô aimable et douce muraille, montre-moi ta lézarde, que je puisse regarder au travers avec mes yeux. La muraille écarte ses doigts. « Je te rends grâce, courtoise muraille, que Jupiter te protège en récompense. Mais que vois-je ? Je ne vois point de Thisbé. Oh, maudite muraille au travers de laquelle je ne vois point mon bonheur. Maudite soient tes pierres pour me tromper ainsi. » Thésée. La muraille, étant sensible, devrait, ce me semble, le maudire à son tour. Pyram. Non, monsieur, en vérité, elle ne le doit pas. Me tromper ainsi est la réclame du rôle de Thisbé. C'est à elle de paraître maintenant, et je vais la chercher des yeux à travers la muraille. Vous verrez que tout cela va arriver juste comme je vous l'ai dit. Tenez, la voici qui vient. Thisbé. Oh, muraille, tu as souvent entendu mes plaintes de ce que tu séparais, mon beau Pyram et moi. Mes lèvres vermeilles ont souvent baisé tes pierres cimentées avec de la chaux et de la bourre. Pyram. Je vois une voix. Je veux m'approcher de la fente pour voir si je peux entendre le visage de ma Thisbé. Thisbé ?
Thisbé.
Mon amant. Tu es mon amant, je crois.
Pyram.
Crois ce que tu voudras. Je suis ton cher amant et je suis toujours fidèle comme Liandre.
Thisbé.
Et moi, comme Hélène, et jusqu'à ce que les destins me tuent.
Pyram.
Jamais Saphale ne fut si fidèle à Procrus.
Thisbé.
Comme Saphale fut fidèle à Procrus, je le suis pour toi.
Pyram.
Oh, donne-moi un baiser par le trou de cette odieuse muraille.
Thisbé.
Je baise le trou de la muraille et pointe tes lèvres.
Pyram.
Veux-tu venir tout à l'heure me rejoindre à la tombe de Ninni ?
Thisbé.
À la vie ou à la mort, j'y vais sans délai.
La muraille.
Moi, muraille, me voilà à la fin de mon rôle. Et mon rôle étant fini, c'est ainsi que la muraille s'en va.
La muraille, Pyram, Thisbé, sortent.
Thésée. Maintenant, la voilà donc à bas, la muraille qui séparait les deux voisins.
Démétrius.
Il n'y a pas de remède, mon prince, quand les murailles sont si prestes à entendre sans en prévenir.
Hippolyte.
Ceci est la plus sotte absurdité que j'ai jamais entendue.
Thésée.
La meilleure de ces représentations n'est qu'une illusion, et le pire de toutes ne sera pas pire si l'imagination veut l'embellir.
Hippolyte.
Il faut que ce soit votre imagination qui s'en charge alors, et non pas la leur.
Thésée.
Si nous ne pensons pas plus d'eux qu'ils n'en pensent eux-mêmes, ils peuvent passer pour d'excellents acteurs. Voici de fameuses bêtes qui s'avancent. Une lune et un lion.
Entre le lion et le clair de lune. Le lion.
Belle dame, vous dont le cœur timide frémit à la vue de la plus petite souris qui court sur le plancher, vous pourriez ici frissonner et trembler d'effroi lorsqu'un lion féroce vient à surgir dans sa rage. Sachez donc que moi, Snuck le menuisier, je ne suis ni un lion féroce, ni la femelle d'un lion, car si j'étais venu comme un lion irrité dans ce lieu, ma vie courrait de grands dangers.
Thésée.
Une fort bonne bête.
Et d'une honnête conscience.
Démétrius.
La meilleure bête, pour une bête bête, que j'ai jamais vue, mon prince.
Lysandre.
Ce lion est un vrai renard par la valeur.
Thésée.
Cela est vrai.
Et un véritable oison par la prudence.
Démétrius.
Non pas, mon prince, car sa valeur ne peut emporter sa prudence.
Et le renard emporte l'oison.
Thésée.
Sa prudence, j'en suis sûr, ne peut emporter sa valeur.
Car l'oison n'emporte pas le renard.
C'est à merveille. Laissez-le à sa prudence et écoutons la lune.
Le clair de lune.
Cette lanterne vous représente la lune et ses cornes.
Démétrius.
Il aurait dû porter les cornes sur sa tête.
Thésée.
Ce n'est pas un croissant.
Et ses cornes sont invisibles dans la circonférence.
Le clair de lune.
Cette lanterne représente la lune et ses cornes. Et moi, j'ai l'air d'être un homme dans la lune.
Thésée.
Cette erreur est la plus grande de toutes.
L'homme devrait être mis dans la lanterne.
Autrement, comment serait-il l'homme dans la lune ?
Démétrius.
Il n'ose pas se fourrer là, à cause de la chandelle,
car vous voyez qu'elle flambe déjà.
Hippolyte.
Oh, je suis lasse de cette lune. Je voudrais que la scène changeât.
Thésée.
Il paraît à sa petite lueur de prudence qu'il est dans le décours.
Mais cependant, par politesse et par raison, il faut attendre le temps voulu.
Lysandre.
Poursuis, lune.
Le clair de lune.
Tout ce qui me reste à vous dire, c'est de vous déclarer que la lanterne et la lune, moi l'homme dans la lune, ce buisson d'épines, et ce chien, mon chien.
Démétrius.
Eh, mais tout cela devrait être dans la lanterne, car ils sont dans la lune.
Mais silence, voici Thisbé.
Thisbé.
Voici la tombe du vieux Nini. Où est mon amant ?
Le lion.
Oh !
Le lion rugit. Thisbé s'enfuit.
Démétrius.
Bien rugi, lion !
Thésée.
Bien couru, Thisbé !
Hippolyte.
Bien brillé, lune !
Vraiment, la lune lui de fort bonne grâce.
Le lion déchire le manteau du Thisbé et sort. Thésée.
Bien mâché, lion !
Démétrius.
Et voilà Pyram qui vient.
Lysandre.
Et la lune qui disparaît.
Pyram.
Douce lune, je te remercie de tes rayons solaires.
Je te rends grâce, lune, de ta clarté si brillante.
Car à la lumière de tes rayons gracieux, dorés et brillants, je me promets de goûter la vue de la très fidèle Thisbé.
Mais arrêtons !
Oh, horreur !
Mais voyons,
pauvre chevalier, quel affreux objet s'offre ici !
Mes yeux, voyez-vous ?
Comment cela peut-il être ?
Oh, ma petite poule !
Oh, ma chère !
Ton beau manteau !
Quoi donc ? Est-il teint de sang ?
Approchez, cruelle furie !
Oh, destin ! Venez, venez, coupez fil et filasse, écrasez, détruisez, égorgez et finissez tout !
Thésée.
Cette fureur et la mort d'un tendre amant seraient capables de rendre un homme triste.
Hippolyte.
J'en veux à mon cœur,
mais j'ai pitié de lui.
Pyram.
Ô nature, pourquoi formas-tu des lions ? Puisque cet infâme lion a défloré ici ma chère maîtresse qui est... qui était la plus belle personne qui ait vécu, qui est aimée, qui est caressée, qui est regardée de ses beaux yeux.
Venez, larmes, confondez-vous. À moi, mon épée, et blesse le sein de Pyram.
Oui, le sein gauche, où palpite le cœur. Ainsi, je meurs, je meurs, je meurs. Maintenant, je suis mort. Maintenant, je suis parti de ce monde. Mon âme est dans les cieux, langue perd ta lumière. Lune prend la fuite, et maintenant, meurs, meurs, meurs. Meurs, meurs.
Il meurt. Le clair de lune sort. Démétrius.
Plus de dé pour celui-ci, si ce n'est l'as, car il n'est plus qu'un.
Lysandre.
Il est moins qu'un as, ami, car il est mort. Il n'est rien.
Thésée. Avec le secours d'un chirurgien, il pourrait en revenir encore et se trouver un âne.
Hippolyte. Par quel hasard le clair de lune s'en est-il allé avant que Thisbé revienne et retrouve son amant?
Thésée.
Elle le trouvera à la clarté des étoiles. La voici qui s'avance.
Et sa douleur va finir la pièce.
Thisbé paraît.
Hippolyte.
Il me semble qu'elle ne doit pas être fort longue pour un pareil pyrame.
J'espère qu'elle sera courte.
Démétrius.
Lequel de Pyrame ou Thisbé vaut le mieux?
Un atome ferait pencher la balance.
Lysandre. Elle l'a déjà aperçue avec ses beaux yeux.
Démétrius.
Et la voilà qui va gémir. Vous allez entendre.
Thisbé.
Dors-tu, mon amant?
Quoi?
Serais-tu mort, mon beau tourtereau?
Oh, Pyrame, lève-toi! Parle! Parle-moi!
Tout à fait muet.
Donc,
mort?
Mort?
Une tombe doit donc couvrir tes yeux.
Ce front de lys, ce nez vermeil, ces joues jaunes comme à la prime vert, sont évanouis.
Sont évanouis.
Amant,
gémissez.
Ses yeux étaient verts comme poraux. Ô vous trio de sœurs, venez, venez à moi. Avec vos mains pâles comme le lait, teignez-les dans le sang, puisque vous avez coupé de vos ciseaux son fil de soie.
Langue, n'ajoute pas un mot.
Viens, fidèle épée, viens, lame tranchante, plonge-toi dans mon sein.
Et adieu, mes amis.
Ainsi finit Thisbé.
Adieu,
adieu,
adieu.
Elle meurt.
Thésée.
Le clair de lune et le lion sont restés pour enterrer les morts.
Démétrius.
Oui, et la muraille aussi.
Bâton.
Non, je puis vous l'assurer. La muraille qui séparait leurs pères est à bas.
Vous plaît-il de voir l'épilogue ou d'entendre une danse bergamasque entre deux acteurs de notre groupe?
Thésée.
Point d'épilogue, je vous prie, car votre pièce n'a pas besoin d'apologie.
Ne vous excusez pas, car lorsque tous les acteurs sont morts, il n'est pas besoin d'en blâmer aucun.
Vraiment, si celui qui a composé cette pièce avait joué le rôle de Pyrame et qu'il se fût pendu avec la jarretière de Thisbé, cela aurait fait une bien belle tragédie.
Et c'en est une en vérité, et jouée avec distinction.
Mais voyons notre bergamasque.
Laissez là votre épilogue.
Une danse de paysans bouffons. La langue de fer de minuit a prononcé 12.
Amant, au lit. C'est presque l'heure des fées.
Je crains bien que nous ne dormions trop tard le matin, comme nous avons veillé trop longtemps cette nuit.
Cette farce grossière nous a bien trompés sur la marche pesante de la nuit.
Chers amis, allons à notre lit.
En l'honneur de cette solennité, nous passerons 15 jours entiers dans les fêtes nocturnes et des divertissements nouveaux. Et chaque jour amènera de nouveaux plaisirs pour célébrer cette fête.
Tous sortent.
Scène 2. Entre Pâques.
Voici l'heure où le lion affamé rugit, où le loup hurle à la lune, tandis que le lourd laboureur ronfle, épuisé de sa pénible tâche. Maintenant, les tisons consumés brillent dans le foyer. La chouette, poussant son cri sinistre, rappelle au malheureux couché dans les douleurs le souvenir d'un drap funèbre. Voici le temps de la nuit, où les tombeaux, tous entr'ouverts, laissent échapper chacun son spectre, qui va errer dans les sentiers des cimetières. Et nous, fées, qui voltigeons près du char de la triple écate, fuyant la présence du soleil et suivant l'ombre comme un songe, nous gambadons maintenant. Pas une souris ne troublera cette maison sacrée. Je suis envoyée devant avec un balai pour balayer la poussière derrière la porte.
Entre Oberon et Titania avec leur cour.
Oberon. Qu'une faible lumière éclaire cette maison par le moyen de ce feu mourant.
Que tous les esprits et toutes les fées sautent d'un pied léger, comme l'oiseau sur la branche.
Répétez après moi ce couplet.
Chantez et dansez rapidement à sa mesure.
Titania.
D'abord, répétez ce couplet par cœur, et à chaque mot une cadence.
Les mains enlacées, avec la grâce des fées, nous chanterons et nous bénirons cette demeure.
Chant et danse. Oberon. À présent, jusqu'à la pointe du jour, chaque fée erre dans ce palais. Nous irons au beau lit nuptial, et il sera béni parmi nous. Et la lignée qui y sera engendrée sera toujours heureuse. Ces trois couples d'amants seront toujours sincères et fidèles. Et les taches de la main de la nature ne se verront point sur leurs enfants. Jamais signe, bec de lièvre, cicatrice ou marque de sinistre augure, qui sont si pénibles à voir au jour de la nativité, n'existeront pour leurs enfants. Fées, dispersez-vous, qu'avec la rosée des champs, chacune de vous, chaque appartement de ce palais a la douce paix. Il subsistera toujours en sûreté, et le maître en sera toujours béni. Allons, vite, ne tardons plus. Venez me rejoindre au point du jour. Oberon et Titania sortent avec leur cour. Pâques. Si nous, légers fantômes, nous avons déplu, figurez-vous seulement, et tout sera réparé, que vous avez fait ici un court sommeil, tandis que ces visions erraient autour de vous. Seigneur, ne blâmez point ce faible et vain sujet, et ne le prenez que pour un songe. Si vous faites grâce, nous corrigerons. Et comme je suis un honnête Pâques, si nous avons le bonheur immérité d'échapper cette fois à la langue du serpent, nous ferons mieux avant peu. Ou tenez Pâques pour un menteur. Ainsi, bonne nuit à tous. Prêtez-moi le secours de vos mains, si nous sommes amis. Et Robin vous dédommagera quelques jours. Il sort.